Eh bien, il y a d'abord une partie, une part logique, qui est exprimée donc par le ministre iranien. Je crois que la logique veut que les États-Unis en particulier prennent des engagements lors de cette réunion, comme il se fait d'ailleurs dans toutes, dans tous les toutes les tractations diplomatiques, à savoir que ce qui sera décidé sera maintenu. Voilà, c'est tout. C'est une sorte d'engagement que l'on demande formel. Si les États-Unis eux-mêmes ne renversent pas la vapeur, ne cherchent pas à être réalistes, eh bien, à ce moment-là, ils entraîneront l'Occident. Parce que nous-mêmes, nous n'avons plus la capacité, vous voyez, de réagir. Et je vois que nous avons au contraire, je vois avec l'Angleterre, avec M. Johnson, nous avons une agressivité, disons, de la politique anglaise, anglo-sioniste, voyez-vous, qui est aussi intacte qu'au moment de 1956 à Suez, etc., etc. Je crains malheureusement que nos élites, qui sont de formation légère, nos nouvelles élites, voyez-vous, ne puissent pas faire un barrage à cela. Et les hommes mûrs chez nous, les hommes plus mûrs, si vous voulez, préfèrent se garder de la politique. Malheureusement, c'est le cas en France et en Allemagne, bien sûr. N'oubliez pas, l'Allemagne, je vous dirai en un seul mot, est toujours considérée, malgré sa puissance, et peut-être à cause de sa puissance économique, est considérée politiquement comme toujours la suite d'un pays vaincu. Voyez-vous, et ça, malheureusement, on en voit les effets malheureux quand même en plein 21e siècle. Bon, écoutez, je vous laisse, c'est malheureux de parler comme cela, mais je vois que les États se préparent à vivre dans la crainte. Voilà. C'est-à-dire, vous signez quelque chose, imaginez que vous signez un mariage et que deux jours après, il y a une des parties qui conteste. C'est exactement ce qui arrive. Voilà, alors impossibilité de signer un traité, impossibilité donc d'asseoir la paix. Et je crois qu'on fait vivre les gens dans une atmosphère, non pas de pré-guerre, mais une atmosphère de lutte permanente, voyez-vous, de lutte permanente, de lutte, je dirais, si vous pouvez employer une image, une lutte mondiale, mais de caractère civil. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance qu'on s'est établi entre les nations, voyez-vous, et toutes les nations. On essaie entre la Pologne et la Russie, entre la France et l'Angleterre et les États-Unis, à propos de l'affaire des sous-marins. Vous voyez, on ne vit plus dans une atmosphère saine. Voilà. Et ça, je dois dire que ce n'est pas simplement le cas. Je ne parle pas de ce qui est opposé à l'Iran. Ce qui est opposé à l'Iran n'est qu'un élément de ce que nous connaissons dans la vie générale. Ceci n'est pas particulier à l'Iran en particulier, ou vise particulièrement les États-Unis, mais vise évidemment tout membre, tout participant à une négociation. Mais ceci est rappelé et que dont tout le monde convient. Les informations font état d'une protestation anglo-israélienne contre ces négociations mêmes, voyez-vous. Et je crois que ceci donnerait la clé peut-être des difficultés que les Américains ont à aujourd'hui, quelle que soit l'équipe gouvernementale, à se poser, disons, c'est-à-dire à calculer, selon leurs propres intérêts, ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de pénétration, d'intrigue, de la part de puissances qui ne sont pas à leur niveau, bien sûr. Je parle de l'anglo-sionisme, voyez, mais qui ont suffisamment de nuisances, voyez-vous, pour pouvoir faire chuter une intention américaine de négocier. Voici qu'il faut être très prudent là-dessus, sans eux-mêmes paraître au premier plan, c'est-à-dire faire reporter aux Américains, à la nouvelle administration, la responsabilité d'un échec, alors que celle-ci n'est pas forcément recherchée par les États-Unis. Bien sûr, nous avons eu dernièrement une déclaration du Pentagone mettant en garde l'Iran contre les entreprises nucléaires, bien. Il ne s'agit pas du tout de négocier sur des entreprises nucléaires. Il s'agit de négocier sur la puissance atomique de l'Iran. C'est tout à fait autre chose. Je ne sais pas que le camp occidental soit divisé. Mais il y a une contrainte sur l'Occident, voyez-vous. Une contrainte à saboter ses propres initiatives. C'est-à-dire à ne pas rechercher son propre intérêt, ou l'intérêt de la paix mondiale, si vous voulez. Mais de vivre, on contraint l'Occident, je le vois par cette déclaration britannique et israélienne, à toujours, disons, se méfier de tout accord avec des puissances qui semblent hostiles, et qui sont hostiles, enfin qui apparaissent comme hostiles à un certain groupe, n'est-ce pas ? J'ai dit anglo-sioniste, mais je crois que là, cette fissure, en tout cas, qui apparaît maintenant au grand jour, ne doit pas être exagérée, mais ne doit pas non plus être négligée. Il y a une, disons, à l'intérieur de l'Occident, je dis à l'intérieur de l'Occident, des forces qui s'affrontent et naturellement qui sont aidées, ces forces-là. Les forces, disons, les plus nocives s'appuient sur une situation financière très difficile.